Ceux qui ne la connaissent pas bien en détail, reprenez vos livres d'histoire et étudiez-la. D'abord faire un certain nombre de repères du point de vue des dates. Il y a ici un tableau que je voudrais que vous repreniez. Nous l'avons déjà vu à propos de la diaspora. Donc vous avez correctement jusqu'à 4 heures. Autant de dons de cette communauté d'Esther et de Mordechai et la correspondance de ce qui s'est passé dans notre temps. Enfin, ce n'est pas tellement cela qui va nous occuper, mais le déroulement des dates. Alors vous avez dans votre grand graphique, vous avez ici, là, vous voyez, cette date-là que vous allez prendre, vous voyez, c'est à la fin du premier temps, dans le grand graphique. Voilà, vous avez une date là, vous allez me donner. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Nahol. Bon, alors ça c'est la destruction du premier royaume de Juda. Okay. Alors que la destruction du premier royaume d'Israël, vous l'avez bien avant, hein? Vous l'avez ici, sur cette ligne-là, vous avez marqué exil d'Assyrie, c'est ça? Voilà. Alors là, c'est la destruction. Vous voyez, le schisme entre les deux royaumes s'est fait juste après le temps du roi Salomon. Et puis vous avez le royaume de Juda qui continue et le royaume d'Israël qui a été détruit. Okay, c'est ce qui vous est marqué là, l'exil des dix tribus. Okay. Bon, alors l'exil du royaume d'Israël s'appelle l'exil d'Assyrie, A2SY, okay, Ashur en hébreu, alors que l'exil du premier royaume de Juda, dans la date là que vous m'avez donnée, 3338, c'est ça? C'est la fin du. Plus tard, et c'est la fin du royaume de Judée, le premier royaume de Judée, qui avait donc pour capitale Jérusalem, alors que le royaume du Nord avait pour capitale. Voilà comment on envoie les gens en enfer. Vous êtes sûr que la capitale du royaume d'Israël, c'est Shechem? Samarie. Shomron. Oh, Samarie. Vous n'avez pas entendu parler de la Judée et de la Samarie? Et bien voilà d'où ça vient. Hein? Et le Dieu. Et alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ce qu'on vous appelle ici dans la ligne du haut, l'exil de Babylone, vous allez le prendre en hébreu d'ailleurs, c'est Galut Babel, c'est l'exil du premier royaume de Juda. C'est clair? Bon, vous rappelez que le premier royaume de Juda était constitué par deux tribus et demie. Qui sont Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Manaché. Donc, Yehuda, Binyamin et Hatsi Menaché. Et 9 tribus et demie autres étaient groupées autour de la tribu d'Ephraïm dans le royaume du Nord. Alors, le royaume du Nord a été détruit et exilé le premier dans l'exil de Ashur. La Syrie, c'est la même contrée d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était la civilisation assyrienne qui était dominante. Et puis, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais je crois que c'est 100 et quelques années plus tard, 180 grosso modo années plus tard, le royaume de Juda a été détruit par la même Assyrie, la Babylonie, c'est un autre nom lui-même. Et puis, cet empire de Babylonie a été finalement conquis par le royaume de Perse. En fait, il y avait deux peuples qui étaient à la tête de ce royaume, un peu comme l'Autriche-Hongrie, les Austro-Hongrois, là. C'était les Perses et les Mèdes. La Perse et la Médie. Paras ou Madaï, en hébreu. Bon. Alors, je vais vous parler très, très brièvement du thème d'identité de cet empire. Tout ce que nous allons apprendre par rapport à Pourim est très parallèle à ce qui se passe pour Pessah. Pessah, c'est la délivrance de l'exil d'Égypte. Purim, c'est pas la fin vraiment de l'exil de Babylone, quoique ça va être l'époque de la fondation du deuxième royaume de Juda, mais c'est en tout cas le salut par rapport à un danger de destruction analogue à celui duquel le peuple d'Israël a été sauvé à la sortie d'Égypte. Mais il y a beaucoup de différences, bien entendu, mais vous verrez que c'est extrêmement parallèle. Alors, une première note dans le thème que je voudrais analyser maintenant, qui est le thème de l'apparition de l'identité juive à proprement parler à cette époque, c'est, si vous voulez, de la même manière que la Torah nous raconte l'histoire des Hébreux, eh bien, la Megillat Esther nous raconte l'histoire des Juifs. Et le premier thème que je voudrais établir, c'est d'abord l'identification socio-historique et politique du royaume de l'Empire de Perse. C'est-à-dire dans quel type d'empire la première communauté juive de la dispersion s'est constituée. Et les événements qui s'y sont rattachés. Et vous verrez que c'est un thème extrêmement important, ainsi que les thèmes qui vont suivre, parce que c'est là que nous avons l'essentiel de l'enseignement de la tradition concernant l'identité juive. Tout commence là. Et ça se termine de nos jours, comme vous savez d'autre part. Je crois que, entre autres signes, si vous voulez, le fait que l'identité juive de diaspora ait commencé dans la Perse et que ça s'achève, cette communauté-là s'achève de notre temps d'Afghan en Perse, c'est pas par hasard. Vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais vous citer en passant d'ailleurs un enseignement du Maharal dont je donnerai la référence à une étude si vous me le rappellerez, parce que j'ai pas mon livre ici. C'est que vous avez déjà appris, je suppose, probablement avec moi, c'est que l'histoire d'Israël va avoir à traverser un certain nombre d'empires. Nous avons appris cela ? À quel propos ? Bon, on a appris cela, mais à quel propos ?
Introduction à la notion d'exil.
Ah, c'est possible. Alors, c'est d'abord l'empire de Babel, l'ancien empire de Babel d'où sort Abraham. Okay ? Et l'exil corollaire, c'est l'exil en Égypte. Vous vous rappelez de cela ? Ensuite, il y a l'empire de Perse, c'est la Perse et la Médie, Parasumadai, d'où sort Qui sort de cet exil corollaire de l'Empire de Perse, Ezra et Néhémie. Mais la communauté juive de diaspora va rester dedans. Ezra et Néhémie sortent avec un cinquième du peuple, une fois de plus, pour fonder le deuxième royaume de Juda. C'est l'époque immédiatement, quelques années après, les événements que raconte la Megillat Esther. Hein, nous allons revoir ce tableau tout à l'heure. Et puis, ensuite, il y a eu Yavan, la Grèce, et l'identité d'Israël corollaire, c'est les Maccabées. Okay. Ici, c'est un exil, on a appris cela, un exil un peu particulier, c'est un exil sur la terre même d'Israël. Okay. Et finalement, c'est Yehuda Maccabée, Matatiaou Hashmonaï, qui est le héros de la victoire contre les Grecs. Oui. Et puis, en fin de compte, le quatrième, c'est l'Empire de Rome, d'où nous sortons maintenant. Familiarisez-vous bien cela avec cela. Oui, des personnages comme ceux dont on vous parle à la fondation du sionisme sont au niveau de les Maccabées, Ezra et Néhémie et Moshe Rabbeinu. C'est les mêmes identités. Vous comprenez cela ? Bon, sous des styles et des apparences et des réalités historiques différentes, mais c'est le même thème. C'est clair ? Bon. De la même manière que l'identité hébraïque sort d'Égypte, l'identité juive sort de Judéenne, sort de la Perse et de la Grèce, l'identité israélienne sort de Rome. Enfin, de cette contemporanéité-là. Vous suivez bien ? Donc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais dire 10 tribus au lieu de 9,5, en réalité c'était 9,5, les 10 tribus du royaume d'Israël ancien, vous vous situez bien maintenant, avec comme capitale Samarie. Se sont très rapidement perdus. Ils ont perdu tout contact avec Eretz Israël. Beaucoup de tribus se sont préservées dans leur fidélité, à leur manière, dans toute cette région du monde, l'Inde y compris. Okay. Je ne reviens pas sur les détails, je vous ai souvent un peu parlé de ça, souvent ou un peu. Et puis, en fin de compte, Par exemple, les Pashtous dont je vous ai parlé, qui, il y a quelques siècles, se sont convertis à l'islam, mais ils ne vont plus faire partie de l'histoire qui commence avec les Juifs. Vous comprenez ce que je veux dire, okay? Et alors, évidemment, toutes ces tribus se sont perdues, elles se sont dépersonnalisées, et c'est une des questions que nous aurons à étudier. Pourquoi l'exil de l'ancien royaume d'Israël s'est perdu, quelle que soit la certitude, une prophétie que nous avons, qu'ils reviendront à la fin des temps, et ça commence, okay? Commence à s'identifier un peu partout, et alors que l'exil de Juda, lui, s'est maintenu. Alors vous allez noter toutes ces questions-là. Okay? Ça, c'est un des thèmes importants. Je vous dirai pourquoi je vous ai cité cette question. Je vous donne tout de suite la réponse, pour que ça vous aide un peu à réfléchir. Parce que la différence qu'il y avait entre l'ancien royaume d'Israël et la Judée, c'était la relation à la Torah. Vous voyez, les tribus de l'Israël du Nord avaient l'identité hébraïque nationale, comme les tribus du Sud de la Judée, okay? Mais finalement, la fidélité à la Torah préservait les Juifs, alors que ce manque de relation à la Torah a fait perdre l'identité d'Israël, de ses descendants d'Israël, et des tribus. Vous voyez ce qui s'est passé? Est-ce que c'est clair? Bon, et nous allons voir comment la Megillat Esther nous enseigne cela. Or, quand je dis, et c'est très facile à comprendre, c'est-à-dire toutes ces tribus d'Israël, quelle que soit leur fidélité nationale à l'intérieur d'un empire comme celui que je vais vous décrire, eh bien, finalement, très rapidement, le fait qu'il n'y ait pas la différence spécifique d'Israël en relation à la Torah, fait que leur différence avec les autres ethnies au sein duquel elles se trouvaient devenait des nuances folkloriques qui se perdent rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ce qui guette chaque fois qu'une population juive, qu'une communauté juive se coupe de la Torah et devient cosmopolite avec comme différence avec la nation dans laquelle elle vit que des nuances folkloriques. Vous comprenez? Par exemple, ce qui est en train de se passer en France pour une très grande partie de la population juive, qui n'a de différence avec les autres Français que le couscous ou le gefilte fish. Ça ne tient pas le coup longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, lorsque la relation à la Torah est coupée, alors la différence nationale, qui, tant qu'elle est vivante, est un maguen, un bouclier, si vous voulez, finit par se dénaturer, devenir cosmopolite, populiste, si vous voulez. Si Abraham Golek était là, on s'attraperait, parce que c'est très exactement, si vous voulez, ce qu'a voulu faire, par exemple, un mouvement comme le Bund. On vous a parlé du Bund, vous voyez ce que c'est. Et alors, finalement, bon, beaucoup de descendants des bundistes sont redevenus des juifs et des israéliens. Okay? C'est arrivé. Mais, grosso modo, cette population, devenant cosmopolite, ne se différenciant avec les goïms chez lequel elle vit, que par une espèce de culture qui devient des bêtises de folklore, okay, alors ça ne tient pas le coup. Voilà pourquoi les 10 tribus d'Israël, alors qu'ils étaient la masse nationale du point de vue numérique, se perdent. Ça, c'est pas tout de suite, c'est pas du jour au lendemain. À la longue, en fin de compte, chaque ensemble humain, dans son style historique, vu le paysage où il se trouvait, et ce sont des populations qui se sont répandues dans l'Europe entière, okay, mais surtout dans toute cette grande partie du nord de l'Asie. Okay. Et ils sont devenus de braves goyim qu'on retrouvera à la fin des temps, lorsque leur trace d'âme hébraïque se réveille, alors on les retrouve. Okay. Et c'est pas simple, parce qu'ils arrivent avec des déguisements de pourris. Okay. Mais pour arriver à diagnostiquer Wale Maloup, si derrière une apparence de goy il y a un vrai juif, il faut le faire. Mais ça revient. Okay. Et puis, enfin, juifs, ils n'ont jamais été, je veux dire hébreux. Okay. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Mais il y a un phénomène important, c'est que des familles de toutes ces tribus-là ont rejoint à Babel, à Babylone, c'est-à-dire qui deviendra l'Empire perse, ont rejoint les tribus du royaume de Juda dans leur exil. C'est clair ? Du premier royaume de Juda. Ça veut dire les communautés de la diaspora des Judéens ont reçu en leur sein énormément de membres du premier exil d'Assyrie, des 10 tribus perdues, qui, à l'échelle familiale ou même à l'échelle individuelle, ont rejoint les Judéens. Et c'est pourquoi le peuple juif qui va sortir de ces Judéens exilés, Ken, contient en son sein, ne serait-ce que sous forme de germe, l'identité de toutes les tribus. Minute. Mais l'identité dominante, c'est l'identité de la tribu de Juda et de Benjamin. C'est clair ? C'est-à-dire, chez les Juifs, par la suite, je vais reprendre l'analyse historique, il y a des descendants de toutes les tribus d'Israël, mais sous forme récessive, comme on dit en génétique. La dominante, c'est Juda et Benjamin, avec un peu de Manassé, et bien sûr les Lévites, la tribu de Lévi, la partie de la tribu de Lévi qui était avec le royaume de Juda. C'est clair ? J'ai bien cela. Et nous avons dans les Divrayamim, dans les chroniques, la généalogie de toutes les familles, de base, les familles, les clans, si vous voulez, qui ont constitué cette communauté, de première communauté de la diaspora. Alors, première chose, nous avons, dans ce qui vous est appelé l'exil de Babylone, dans votre tableau, c'est la diaspora de la Judée du premier royaume de Juda. C'est clair ? Bon. Et cette diaspora ne s'est pas seulement constituée à la destruction du premier royaume de Juda. Elle s'était déjà constituée depuis le début de l'histoire du royaume de Juda. Vous suivez ? C'était une très grande diaspora, numériquement très grande. Je parle des Judéens, je ne parle plus des Israélites de ces 10 tribus, dont des familles, des individus sont venus rejoindre les Judéens. Ils sont rentrés chez les Juifs, si vous voulez. Est-ce que c'est clair ? Bon. Et ça va très vite, c'est-à-dire, très rapidement, s'est constituée cette identité de diaspora comme telle, alors que la diaspora, à proprement parler, avait commencé avant. La diaspora comme telle, je veux dire, la diaspora, la métropole étant détruite. C'est-à-dire, voilà le chidouche, voilà la chose nouvelle qui apparaît chez ces Judéens de l'étranger, qui s'étaient constitués en diaspora dans le sens habituel, c'est qu'il arrive une catastrophe, la métropole est détruite. Et il ne reste que la diaspora. Et c'est la première fois que ça arrive. Vous y êtes ? Bon. Et cette communauté qui s'est constituée comme modèle de la Kehila, des communautés juives, d'une histoire qui a maintenant 2600 ans, depuis ce temps dont je vous parle là, la destruction du premier royaume de Juda, c'est la communauté de Mordechai et d'Esther. Okay ? Celle dont on vous raconte l'histoire dans le livre d'Esther. Est-ce que c'est clair ? Bon, qu'est-ce que tu veux demander ?
Je vais demander à ma mère s'il y avait eu. Lors de la deuxième visitation, pas après 140 ans après, la visitation du royaume de Juda, ils avaient rencontré cette tribu.
Elle a dit non.
Elle m'a dit non, on n'a pas de trace de.
Oui, ça c'est les historiens. Okay. Moi, non, ça c'est les historiens. Ils n'ont pas de trace dans les livres d'histoire. Mais moi je vous parle de la tradition talmudique. Okay. C'est très, je vais vous dire, la difficulté des historiens, c'est qu'ils ne peuvent citer que des documents historiques. Et je ne sais pas si vous avez étudié ces problèmes de la méthode historique. Seignobos, ça vous dit quelque chose ? Si un jour vous avez un manuel de Seignobos sur des méthodes historiques, étudiez-le, ça vaut la peine. Et voilà ce que je veux dire. Merci. Les historiens sont très embêtés parce qu'ils doivent reconstituer une histoire du passé en s'appuyant sur des traces, des bribes de ce qui a pu rester comme document. Vous suivez ? Alors, tout ce qui a été vivant, et en particulier pour l'histoire d'une tradition et oralement, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas citer une pierre, puisqu'on ne peut pas citer un papier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'historien est obligé de reconstituer une histoire sur des traces. Et alors, vous voyez à quel point l'histoire que racontent les historiens, du point de vue d'une tradition, on ne peut pas en tenir compte. Parce que c'est l'imagination de l'historien qui essaye de reconstituer à partir de bribes. Vous y êtes ? Alors que l'histoire racontée par la mémoire d'une tradition n'a rien à voir. Vous y êtes ? Par exemple, si on parlait de l'histoire du judaïsme d'Algérie, eh bien, mon grand-père n'a jamais laissé de livre. Et c'était un grand Talmud Chacham. Okay ? Alors voilà, pour les historiens, mon grand-père n'a jamais existé. Hein ? C'est clair ? Et alors, si par exemple il m'arrive, moi, de citer mon grand-père, je dirais, il existe puisque j'existe. Ah oui, mais témoignage suspect, ça c'est le petit-fils qui parle. Vous voyez comment les choses sont à l'envers. Je pense que c'est clair. Alors, je ne vous dis pas de méfiez-vous des historiens, c'est pire. Non, Madame Lehr, lire pour l'étranger. Énormément de respect pour elle, c'est un grand savant et un grand professeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. C'est une tête. Mais elle a une mémoire traditionnelle. Et donc, elle sait des choses qu'il n'y a pas dans les livres d'histoire. Okay? Mais prenez bien garde à l'handicap des historiens. Ils ne peuvent vous dire, au nom de la science de l'histoire, que les graffitis qu'ils ont trouvés dans la poubelle du passé. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous avez compris? Bon. Alors, top. Ça y est, c'est clair. Bon. C'est-à-dire que l'essentiel de ce qui s'est passé, ça ne fait pas partie des livres d'histoire. C'est une histoire racontée au 13e degré. Okay? Alors un historien cite l'autre, il cite quoi? Un commente l'imagination de l'autre. Et voilà, tu vois la difficulté. Et alors ici, c'était pas transcrit, c'est pas vrai?
Oui,
méfiez-vous de ça. Non, j'en profite. Okay. Méfiez-vous de ça. Non, mais perds cette habitude, parce que ça va te gêner toute ta vie. Okay. Faites bien attention à ça. C'est parce que nous sommes devenus des infirmes qu'on nous a mis la tradition par écrit. C'est un signe d'infirmité. Okay. Et alors, les choses deviennent l'inverse d'elles-mêmes. Et alors, quand c'est pas écrit, c'est pas sûr. C'est quand c'est écrit que c'est suspect. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je veux dire. Par exemple, c'est clair ce que je dis là. Vous comprenez? On nous a transformés en un peuple de libraires. Et même si je ne vous parle que de ça, ce cours-là, ça vaut la peine, parce qu'on est en plein dans le sujet. Vous vous rappelez quand on a étudié Hanouka, okay, que c'était interdit, ou en tout cas ça, de mettre par écrit. Vous avez compris ça? Mais méfiez-vous de cela. Si vous allez apprendre l'histoire de votre peuple dans les livres, eh bien, vous risquez d'être encombré dans la mémoire d'une histoire artificielle. Il faut l'apprendre dans la tradition. Alors, les livres, c'est des échafaudages, c'est des béquilles. Ça aide, à cause des dates, à cause des... Si, par exemple, Ezra a été capable de vous faire ce... Enfin, pas pour vous, mais enfin, d'ailleurs, c'était pour vous. Enfin, pour les élèves de Mayanov. De faire cela... C'est précisément parce qu'il n'est pas historien. Et qu'il a mis en tableau les enseignements de la tradition. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Par exemple, méfiez-vous cela. Si vous avez ce sort de scrupule, bon, la tradition dit que, mais où c'est écrit dans le Talmud? Si vous avez besoin de cela, c'est quelque chose qui tourne pas rond. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces gens qui disent, il est arrivé ceci, c'est écrit dans le journal. Oui. Mais vous allez acheter le journal du kiosque à côté, c'est autre chose qui est arrivé. Alors qu'est-ce qui est arrivé finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Alors imaginez que disons des journaux d'un jour X ne restent dans les archives des historiens que le journal qui n'a pas dit la vérité. Alors l'historien futur va être sûr, dur comme fer, que c'est ça qui s'est passé. Alors que Dafka, c'est pas ça qui s'est passé. Par exemple, si pour l'avenir ne va rester que la propagande des Palestiniens concernant Israël, et les historiens vont travailler là-dessus, alors qui était le vrai Israël? Vous voyez à quel point c'est grave. Méfiez-vous de ça. On a besoin des livres d'histoire à cause de notre infirmité. Ne mettez pas le critère là où il y a un emplâtre. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? L'histoire, c'est une des matières dont la vérité enseignée dépend de qui enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ceci dit, non mais ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai commencé mes études à ce sujet, c'est ça. C'est le fait que l'historien ne tient compte que de choses sur lesquelles il y a une trace. Or, la plupart du temps, les traces, c'est par hasard. Oui, c'est ce qu'on appelle les traces et les documents. Les traces, c'est ce qui reste par hasard. Le document, c'est ce qui reste intentionnellement. Vous avez compris ce que je veux dire? Et alors, à propos de quoi on parlait? Oui, de cette notion très, très, très simple. Hein, c'est que des identités familiales de... Je vous donne un exemple. je ne sais pas, non, j'ai parlé à une partie de la classe ce matin dans le cours d'hébreu. En Algérie, après la guerre de 70, il y a eu énormément de juifs d'Alsace-Lorraine qui sont venus s'installer en Algérie. Okay? Et c'était d'authentiques Ashkenazim venus d'un tout autre continent. Ils sont rentrés dans la communauté Sfarad. Ils n'étaient pas, si vous voulez, de nombre ou de résistance suffisante pour faire une communauté ashkénaze en Algérie, elle se serait maintenue. Okay? Mais ils sont rentrés dans la communauté Sfarad. Bon, alors oui, ça ressemble un peu, c'est pas le même problème. Alors, plus tard dans les siècles, on dira, imaginons que ne serait resté, bon, enfin, j'invente, j'imagine, que la communauté d'Afrique du Nord. On dira, il y avait des tribus ashkénazes, mais finalement, des familles sont intégrées dans la communauté Sfarad. Alors l'historien a demandé, les traces, eh bien ils n'ont pas apporté leur livret de famille. Asma, ils n'ont pas existé. Vous voyez ce que je dis ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc.
Si en ce qui concerne l'historien et les documents qui se servent, on peut douter, par exemple, de la véracité, de l'impartialité des faits. En ce qui concerne la tradition orale et la transmission, donc, même si elle n'est pas dans le talion, là on est sûr de l'impartialité et de la partialité, pardon, de la non-objectivité.
Lapsus. Significatif. Pas du tout. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Regarde. Attention au sens des mots. Nous sommes habitués à un sens du mot tradition, d'ailleurs au pluriel, les traditions, à une échelle défigurée. Okay? Genre superstition, etc. C'est pas de ça que je parle quand je parle de la tradition avec un grand T. Elle fait bien attention à ça. Okay. Je vous ai cité cela, je ne sais pas si c'était à vous. Je pense qu'à vous. Dans les sociétés traditionnelles, prenez par exemple le cas des druides, la société des druides, qui est une société traditionnelle, malheureusement, qui a disparu, mais de très grande qualité. Okay. Et les bardes, vous avez entendu parler des bardes. Bon. Eh bien, les bardes se récitaient de maître à disciple et d'école à école. Des poèmes de dizaines de milliers de vers. Okay. Il y avait une règle dans les écoles de bardes. Un élève qui récite son texte avec une faute était mis à mort. Les véhicules, oui, c'est comme ça. Les véhicules de transmission d'une tradition sont sûrs parce que c'est quelque chose de sérieux. Il ne s'agit pas des traditions kara. Ma grand-mère m'a raconté que, et puis on raconte des histoires, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça y est, c'est clair. C'est une mémoire qui n'a rien à voir avec ce niveau folklorique auquel on risquerait de faire allusion. Là, tu aurais raison de dire, c'est a priori suspecté encore. On s'aperçoit finalement que quand on sait entendre ce qu'une vieille bonne femme raconte, quand on sait l'entendre, alors on sait de quoi elle parle. Okay. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites bien attention à ça. De la même manière, le temps traditionnel, c'était un temps sérieux. Par exemple, un général qui perdait une guerre, il était fusillé à la Mako. Okay. Bamako. Parce qu'un général n'a pas le droit de faire une guerre. Okay. Sinon, le monde ne peut pas fonctionner. Un juge qui se trompait était mis à mort. Un juge n'a pas le droit de se tromper. Erreur judiciaire, alors il n'y a plus de morale. Okay. Vous voyez jusqu'où ça va. Okay. Alors, vous n'êtes pas habitué à l'expérience de ce que c'est la transmission d'une tradition. Il y a quelqu'un qui a été initié à une tradition, où il a apporté n'importe quel livre, il jette un coup d'œil, il vous dit, là, il y a une faute. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Non, le livre, c'est écrit, c'est toi qui te trompes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est clair ? Bon. Je comprends que ça puisse paraître un peu dépaysant, okay, mais habituez-vous à cela. Attention au sens des catégories qu'on emploie. Okay. La tradition, ce n'est pas les traditions ou qui pourraient être évidemment suspectes. Indépendamment du fait que tout document historique tel quel est suspect pour l'historien du point de vue du sérieux de sa méthode, c'est ce qu'on appelle la critique des documents, la critique des textes, hein. Eh bien, ce dont je parle, le handicap de l'historien, c'est les réalités pour lesquelles il n'y a pas de documents. C'est là qu'il est complètement handicapé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, si on pose une question à un historien, est-ce qualité d'historien, Ken, d'après vous, historien, est-ce que vous savez des documents, est-ce que ceci s'est passé ? Il vous dira, non, j'ai pas de traces. Ken ? Mais qu'est-ce qu'il a le droit de dire ? Il a le droit de dire, je sais pas, je peux pas répondre, j'ai pas de documents qui diraient le contraire. Ou... Oui ? Est-ce que c'est clair ? D'ailleurs, ce qui m'a aussi... et en général, un savant sérieux répond comme ça. Mais ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai étudié cela, en épistémologie, c'était le fait que, la plupart du temps, un historien met en note en référence. Vous savez, chaque fois qu'on met une référence en note, ça fait sérieux. Quand il y a une note, tranquille. Mais on va voir la source qu'il a citée. C'est une opinion de quelqu'un qui a dit « Moi, je suppose que peut-être. » Alors, le « je suppose que peut-être » de la source qu'on a citée, ça devient, c'est évident, la preuve, c'est que ça a été imprimé. Alors, on met ça en note. Okay, ça, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez remarqué cela? Bon, ma amie, méfiez-vous de cela. C'est de la pseudo-culture, dans tous les domaines, pas seulement en histoire. Okay, c'est qu'une accumulation de présomptions, ça ne fait qu'une présomption de plus. Je ne sais pas comment j'ai l'habitude de dire à mes élèves dans d'autres sujets. Vous avez 0 plus 0, vous pouvez ajouter 1 million de zéros, ça reste 0. Je pense que c'est clair. Okay. Déjà, Platon avait dit le fait qu'il faille mettre les choses par écrit, c'est un signe d'infantilisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais... Alors, grâce à lui, on a l'écriture. Parce qu'on a perdu la mémoire. Bon, il faudra vous habituer bien à cela. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire des Hasidim, qui se trouve d'ailleurs dans la Gemara, au nom de Rabbi Yochanan, Ken, le Gemara de Sanhedrin, page 39 et quelques, en bas de la page. Et alors, il... c'est pas de la coquetterie, il a appris ça il y a 25 ans. Alors, voilà. Et alors, là, un jour, un juif qui est venu demander à un rabbin d'apprendre la Torah, vous rappelez de ça? Alors le rabbin lui a dit, tu connais l'hébreu? Il dit, pas encore. Il dit, bon, première leçon, Aleph Bet. Alors il a décidé un Aleph, il a dit, ça c'est Aleph. Il a dessiné un Bet, ça c'est un Bet. Reviens demain. Le lendemain, le Aleph, il a dit, ça c'est Bet. Et le Bet, ça c'est Aleph. Alors l'élève lui a dit, mais non, ça c'est Aleph et ça c'est Bet. Et le maître lui a demandé, mais d'où tu sais? Alors, il dit, c'est toi qui m'as dit. Il dit, mais c'est ça, c'est la première leçon, c'est moi qui t'ai dit. Sinon, d'où il sait? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Non. Vous voyez? Écoutez. Quelqu'un qui ne savait pas l'hébreu est allé chez quelqu'un qui savait l'hébreu. Et il a dit, apprends-moi la Torah. Alors il a dit, pour apprendre la Torah, il faut d'abord apprendre l'hébreu. Et ça, c'est une évidence que vous aurez à faire récupérer. Je pense que vous l'avez récupéré. Vous n'avez aucune idée. Le nombre de tests de doctorat qu'on m'apporte pour être membre du jury, de gens qui font des tests de doctorat en philosophie, en théologie, tout ce que vous voulez, sur des sujets de judaïsme. Okay? Alors je demande, mais vous savez l'hébreu? Non. De quoi il s'agit? Okay? Après la tasse de thé de politesse, il prend la porte. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans quelle culture ça se passe. On peut faire une thèse sur le judaïsme sans savoir l'hébreu. J'ai remarqué cela. Oui, dans quel monde on vit. Ça fait partie de la science contemporaine. Tout ça. Et alors, quoi, c'est ton cas? Et alors, j'espère que c'est pas un doctorat. Non, vous voyez, genre, c'est de la fumisterie pointée. Et en plus, c'est que pour faire une thèse de judaïsme, il faut pas seulement l'hébreu, il faut l'araméen. Hein. Et il y a plusieurs sortes d'araméens. Alors, vous voyez comment nous sommes arrivés à un niveau de civilisation infantile. Infantile. Les thèses que je lis, là, des agrégatifs, comme on les appelle, c'est toujours très bien écrit, d'ailleurs. Mais c'est l'art de dire n'importe quoi de n'importe quoi. La même thèse, vous changez 4 mots, vous faites ça sur l'islam. Et puis, on va. Et le plus fort, c'est que ça marche. Bon, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, je vais vous finir de raconter l'histoire. Alors, le premier cours, le rabbin, il a dit, voilà, ça, c'est Aleph. Okay? Ça, c'est l'Aleph Sfarad, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une différence, l'Aleph Ashkenaz est comme ça. Non. Et ensuite, c'est pas ça? Oui, c'est différent. Okay. En fait, c'est différent. Là, le Yud est de ce côté, là, le Yud est de ce côté. Quoi? Quelle est la valeur numérique de la 9? Non, c'est 26. Ça, vous avez un vav. Ouais, une de la M. Ça fait 26. Top. Et 1, c'est 13. Mais 2 fois 13, par hasard, c'est une coïncidence. Bon, on revient. Il y a 40 réponses. Et la première, ça suffit. Et pourquoi pas? Bon, alors je continue. Donc, ça, c'est Alain. Et ça, c'est bête. Donc, et il a dit, non, tu es fatigué, tu as pris 2 lettres. Alors, reviens demain. Le lendemain, il est revenu, il a dit, ça, c'est bête. Et ça, c'est Alain. Alors, l'élève a dit, mais non, ça, c'est Alain. Et ça, c'est bête. Alors, le maître lui a dit, ben, voilà. D'où tu sais ça? Il dit, c'est toi qui m'as dit. Il dit, ben, c'est la première leçon, c'est moi qui t'ai dit. Ça y est, c'est clair? Bon. Ça veut dire que la tradition orale précède la tradition écrite. Une tradition écrite, c'est une tradition orale mise par écrit. Mais qui peut la comprendre? Celui qui l'a mise par écrit. La mémoire traditionnelle. Ça y est, c'est clair? On sait. Tu sais grâce à qui on sait? Grâce à cette histoire. Bon. Alors, revenons, je sais bien que Pourim s'approche, mais pas trop de blagues à tabac. Alors, revenons au problème. De quoi je parlais? D'accord, mais c'est là qu'on s'est greffé sur une parenthèse divergente. Nous? J'en profite d'ailleurs pour vous ajouter quelque chose d'important. Il n'y a pas de doute que, ça dure depuis un certain nombre de siècles, je vous parle du milieu juif, de la tradition juive elle-même. Il y a un désarroi absolu, et ça a été une des grandes victoires de Rome contre la Judée. Il y a un désarroi absolu dans le monde juif, par où passe la tradition. Okay. Tiens, je vais vous parler de ça, parce qu'on est quand même en plein dans le problème. Les Romains ont diagnostiqué que pour atteindre l'identité judéenne, donc juive, vous vous rappelez ce qu'on avait appris, quelque chose d'analogue à propos de Hanouka, okay, ils ont pris, les Romains, à leur tour, un certain nombre d'édits, un certain nombre de takanon, disons, statut des juifs, okay, en particulier, ils ont interdit ce qu'on appelle la smicha. La smicha, ça veut dire l'ordination en français. Ne comprenez pas avec smicha, c'est une couverture. Okay. Quoi que vous avez dans certains textes, on peut dire aussi smicha, couverture avec sa marque. Hein, smor. Non, je veux vous dire de quoi il s'agit. L'ismor, ça veut dire appuyer. S'appuyer sur ou appuyer. On a appris ce mot-là au début de l'année dans le cours de la Tfila. Smicha de Geoula et Tfila. Vous vous rappelez? La jonction entre la Geoula et la Tfila. Non, mais vous vous rappelez pas, vous voyez? Okay. Non, je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un voudrait faire le compte-rendu de ce qui se passe dans un cours ici. Il prend vos documents. Okay. Qu'est-ce qui va en sortir? Oui? Vous voyez qu'a priori, c'est évident que ça ne marche pas. Okay. C'est clair? Vous avez compris, vous? Très souvent, dans des conférences ou dans des cours ailleurs, il y a des gens qui demandent « Mais où c'est écrit ?» Alors, je suis obligé de leur répondre « Écoutez, vous voulez savoir où c'est écrit ? Revenez dans 200 ans. Je vais l'écrire et dans 200 ans, vous allez voir où c'est écrit. » Ah oui, c'est une histoire de fou. Alors, bon, revenons au problème. Là, c'est une espèce, voilà ce que je veux dire, de superstition de l'écriture. Okay, je vous ai dit souvent, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit. Rien à voir. Okay, il y a une espèce de tendance à la superstition de ce qui est écrit. Okay, méfiez-vous de ça. Alors, revenons au problème. La smicha, c'était la cérémonie de l'ordination. Alors, je vais vous décrire, du point de vue traditionnel, comment un rabbin était habilité pour être enseignant. Enfin, enseignant, je veux dire, porte-parole de la tradition. Okay. C'est son maître, Suivez-moi bien. En français, ça s'appelle l'ordination, ordiner quelqu'un. Son maître, avant sa mort, rassemblait les représentants de la communauté et leur disait « Après moi, c'est celui-là. » Et personne n'a discuté. Okay. C'est-à-dire, parmi tous les élèves possibles, parmi tous les candidats possibles, de qui on reçoit la smicha d'en haut, de haut en bas. C'est-à-dire, celui qui était reconnu comme maître dans la génération précédente, c'était lui qui disait « Après moi, c'est celui-là. » Bon. Et d'où venait l'autorité de ce maître de la génération précédente qui disait « Après moi, c'est celui-là. » Et par définition, il n'avait pas expliqué les motifs, parce que seul celui qui aurait été dans son cas pouvait comprendre les raisons pour lesquelles il a choisi celui-là plutôt que quelqu'un d'autre. Vous suivez ? Tous étaient ses élèves. Mais qui va devenir le maître à sa place ? C'est lui qui décide. Vous suivez ? Bon. Et d'où il tient son autorité ? De son propre maître. Laquelle la tient de son propre maître jusqu'à Moïse. C'est clair ? Ça veut dire Moïse qui... Moshe qui beltocha misinaï, ou Msara li Yoshua, Yoshua li Skenim, Skenim in Bihim. Il a appris cette Mishnah ? Bon, il faudra l'apprendre. Alors, vous voyez, ça veut dire que, de la même manière, au moment de quitter Israël, Moïse a ordonné Josué. Tous les grands d'Israël étaient ses élèves. Mais après lui, il a dit, c'est celui-là qui continue. Okay? Vous voyez, Josué, etc. Or, les Romains ont deviné que c'est ça qu'il fallait casser pour atteindre la tradition juive. Oui, est-ce que c'est clair? Par exemple, comment se fait aujourd'hui la désignation d'un grand rabbin d'une ville? Il est élu par ceux qui sont moins que lui. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est à l'envers. Okay? Oui. Bon, je ne vais pas vous rentrer en détail comment ça se passe en France. Ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête. Finalement, il y a un collège électoral où il y a à peine même pas le tiers qui sont des rabbins, d'ailleurs. Les autres, c'est les administrateurs des communautés. Et puis finalement, c'est ce collège électoral qui va désigner qui parmi les rabbins doit être le grand rabbin. Alors que traditionnellement, c'est le grand rabbin précédent qui désigne son successeur. Vous voyez le problème ? Est-ce que c'est clair ? Bon, mais ça a été cassé il y a des siècles. Ou bien, comme je vous ai peut-être un peu parlé de ça, c'était une des grandes blagues des photographes à Jérusalem. La première fois qu'un rabbin français avait besoin d'une photocopie de son diplôme de rabbin, ça a été affiché dans... comme une des curiosités de l'histoire juive, c'était un diplôme de fin d'études rabbiniques signé par le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild atteste que M. X a achevé ses études rabbiniques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Alors, on revient au problème. Les francophones, ça nous faisait tellement mal au cœur de passer devant la vitrine qu'on a obtenu du photographe qui l'enlève.
Comment ça se passe aux horaires ?
À peu près de la même manière, encore. Et avec en pire les rivalités des partis politiques qui veulent mettre leur rabbin. Yesh li rab. Tout ça, c'est inique, selon l'adjectif rabbinique. Alors, revenons au problème. Là, en fait, voilà la règle de l'ordination. Okay? C'est de haut en bas. Vous suivez ? Moïse avait des raisons de savoir que c'est Josué. Josué a des raisons de savoir que c'est tel Zaken, etc., etc. Et puis, quand ça a été cassé, il y a un désarroi absolu. Qui a transmis à qui ? D'où ça vient ? Vous suivez ? Est-ce que c'est clair ? Il y a eu des tentatives de raccrocher cette chaîne de l'ordination, parce qu'après tout, les Talmid et Chachamim se connaissent, et ils savent qui est plus grand que qui vient d'où, et qui est quoi. Et par conséquent, se mettre d'accord pour donner l'investiture à un d'entre eux qui commencera de nouveau la chaîne de l'ordination. Mais deux fois, ça a capoté, parce que les rivalités entre le Mizrahi, la Gouda, ouais, toute cette histoire-là, ça, c'est dans tous les siècles. Bon. Par exemple, aujourd'hui, il est bien évident qu'on a un besoin urgent absolu du Sanhédrin. Okay? Il y a énormément de problèmes qui sont en suspens que seul un Sanhédrin pourrait résoudre. Et alors, imaginez de mettre ensemble 70 rabbins pour les mettre d'accord. On est obligé d'attendre patiemment que le Messie se décide. Okay. Parce que, par les temps qui courent, il ne lui reste plus aucune autre possibilité, c'est de venir. C'est une des raisons pour lesquelles on est sûr qu'il viendra. Et il l'ombrera, il ne peut pas faire autrement. Et alors, je vous ai raconté l'histoire de la traduction des Septante. Non ? Vous savez que lorsque les Grecs, au temps de Hanouka, je ne vous ai pas raconté ça ? Et ils ont décidé de traduire la Bible en grec, vous vous rappelez ? Alors ils ont demandé au Sanhédrin de donner une traduction autorisée. Pour être sûr qu'on n'allait pas les tromper, ils ont enfermé chaque rabbin dans une chambre. La Providence a voulu qu'ils ont été inspirés de la même manière, ils ont donné le même texte. Alors de là, il y a un enseignement talmudique très important. Pour mettre des rabbins ensemble, il faut les séparer. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'ils soient d'accord. Huh?